Chers amis, c'est toujours difficile d'aborder la question de la sexualité, de l'amour, parce qu'il s'agit de tout ce qui nous touche, n'est-ce pas, au point le plus intime de notre existence. Au fond, le titre qui m'a été proposé était exactement celui-ci. Pardon. Amour et sexualité, le christianisme a-t-il peur de la sexualité? Alors, je crois que la première chose à dire, c'est qu'il faut faire une distinction très importante entre le christianisme et nous les chrétiens. Quand il s'agit du christianisme, il faut dire que non, le christianisme n'a pas peur de la sexualité. Mais quand il s'agit des chrétiens, vous, moi, mais nos ancêtres aussi, remontant jusqu'aux temps apostoliques, il faut dire que, bien sûr, la sexualité fait peur à beaucoup et pour beaucoup de raisons. Et ce soir, de façon très simple, j'aimerais partager avec vous tout simplement quelques petites réflexions sur la question, le pourquoi de cette peur, le rôle de cette peur au sein de l'Église et de notre vie en tant que chrétien, et aussi ce que l'Évangile nous dit à propos de la guérison de toutes sortes de peurs, non seulement de la sexualité, mais d'absolument chaque dimension de la vie humaine. Hier soir, c'était beaucoup plus formel, si vous voulez, parce que le sujet était beaucoup plus technique sur un certain plan, le rôle de la bioéthique dans ce grand débat qui a lieu actuellement entre théologie et science. Ce soir, j'aimerais que ce soit beaucoup plus simple. Ces réflexions seront un peu au hasard même, mais j'aimerais vous les livrer avec un seul but, et c'est de susciter quelques réflexions chez vous-même, pour que par la suite, si vous voulez bien, nous pouvons entamer une petite discussion, un échange, et voir où le Saint-Esprit va nous emmener. Alors, les chrétiens ont-ils peur de la sexualité? Pour les uns, c'est oui, pour les autres, c'est non. Mais en général, il y a une certaine peur qui traverse la vie de l'Église en ce qui concerne tout ce qui est sexuel, n'est-ce pas? Et la question est de savoir pourquoi. Pourquoi? Afin de répondre à la question, je crois qu'il faut revenir à toute la question de l'anthropologie orthodoxe, c'est-à-dire la doctrine concernant nous-mêmes en tant qu'êtres humains, des créatures de Dieu. Merci, j'en aurais besoin, je pense. Excusez-moi. Lorsqu'il s'agit de cette compréhension que nous avons en tant que chrétiens à propos de nous-mêmes, nous, comme nos saints-pères, ont l'habitude de commencer par ce verset dans le livre de la Genèse si bien connu, Genèse 1, 27. Et en lisant ce passage, on trouve une image très belle de Dieu qui est donc ce que l'on appelle le conseil divin. Dieu parle et il s'adresse à d'autres réalités. Quelles sont ces réalités? D'après certaines exégètes, il s'agit de Dieu et des anges, de Dieu et d'autres êtres célestes. Dans l'esprit de nos saints-pères, bien évidemment, il s'agit de la Sainte Trinité qui se met d'accord afin de tirer du néant à l'existence l'être humain, homme et femme. Et Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Image et ressemblance. Pendant des siècles, les exégètes, les théologiens, ont débattu la question, mais que signifie l'image de Dieu en l'homme? Pour les uns, il s'agit de la capacité de raisonner, de penser, de réfléchir, de prier, de créer de la poésie, de trouver une possibilité de nous dépasser, n'est-ce pas? Mais pour les autres, l'image de Dieu en l'homme, c'est l'amour. C'est la capacité d'aimer et d'être aimé. Mais quelle que soit la définition précise que l'on donne, ce que l'on peut dire à la base, c'est que l'image de Dieu en vous et en moi, homme, femme, enfant, personne âgée, personne inconsciente, et on pourrait dire même embryon, n'est-ce pas, aux deux bouts de la vie humaine, l'image de Dieu en nous, c'est ce qui nous rend personnels. C'est ce qui fait de nous une personne à l'image des trois personnes de la Sainte Trinité. Et cela est absolument fondamental. Or, dans la pensée de l'auteur de la Genèse, et il faut se rendre bien compte qu'il y en a plusieurs, ça remonte à une tradition provenant de Moïse, mais il y avait plusieurs récits qui ont été tissés ensemble, plusieurs couches de la tradition qui ont été tissées ensemble, afin de créer les livres de l'Ancien Testament. Ceci est vrai aussi pour la Genèse. Le premier chapitre de la Genèse nous offre une image de la création de l'homme qui est plus tardive que l'image que nous trouvons, le récit que nous trouvons en Genèse 2 et 3, Adam et Ève, le jardin de paradis, le serpent, etc. Mais dans les deux récits, un thème fondamental, c'est précisément celui-ci, que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et dans cette expression, telle qu'elle nous est transmise par ce verset 27 du premier chapitre de la Genèse, ces deux termes, image et ressemblance, sont probablement synonymes. Les Hébreux écrivaient en parallèle deux phrases comportant plus ou moins la même idée, avec des termes synonymes. C'est ça ce qui donne toute la beauté à la poésie, au psaume, par exemple, de l'Ancien Testament. Mais dans la pensée des saints-pères, image et ressemblance ne sont pas tout à fait synonymes. Et il y a une différence importante qu'il faut marquer afin de pouvoir aborder, me semble-t-il, toute cette question concernant l'amour et la sexualité. Qu'est-ce que c'est que l'image de Dieu chez les pères? Encore une fois, ça dépend des pères. Néanmoins, ce qu'on peut affirmer, c'est ceci. L'image en nous relève de la nature humaine. Nous sommes des êtres humains, nous sommes nés, créés à l'image de Dieu. Et cette image est indélébile, existe toujours. Dans l'âme le plus noircie, l'âme le plus perdue, entre guillemets, l'âme le plus bourrée de péché, de corruption, l'image de Dieu demeure intacte. Ça, c'est une donnée de l'anthropologie, de l'Église, de la Bible. Et quel que soit le comportement d'un être humain, on est toujours, de la conception jusqu'à la mort et au-delà de la mort, porteur de l'image de Dieu. Où en est-il pour ce qu'on appelle la ressemblance à Dieu? Chez certains des pères, et c'est un thème qui traverse finalement la dogmatique de l'Église, la doctrine, l'enseignement théologique de l'Église, la ressemblance est plutôt une invitation. C'est un cheminement intérieur qui mène vers l'union avec Dieu dans l'amour. Dieu qui est amour de par sa nature même, n'est-ce pas? Saint Jean l'affirme au chapitre 4 de sa première épître. Dieu est amour. Dieu est amour. Ça ne dit pas Dieu nous aime. Dans le tréfonds de son être, Dieu est amour. Et tout vrai amour n'est que le reflet de cet amour divin. Alors, la ressemblance de Dieu et cette invitation que Dieu nous lance de sortir de nous-mêmes, ou peut-être mieux, d'entrer plus profondément en nous-mêmes, afin de commencer par l'ascèse, par la prière, par la charité, un cheminement qui aboutira à la pleine communion, communion éternelle avec lui et en lui. Or, Dieu nous crée donc porteurs de son image et appelés à cheminer vers la ressemblance de Dieu. Mais ce Dieu nous crée aussi dans ce que l'on a l'habitude d'appeler dans la théologie moderne, caractérisé par l'unité et l'altérité. L'unité et l'altérité. L'unité nous unit, n'est-ce pas, dans cette nature humaine qui est la nôtre. Tous nous sommes des êtres humains. Tous nous sommes porteurs ou porteuses de l'image de Dieu. Mais il y a deux sexes. Dieu nous a créés hommes et femmes. Et cette distinction, qui est en même temps une union et communion, crée une sorte de totalité dans l'œuvre de Dieu qui s'exprime au jour le jour dans la vie quotidienne par des relations entre homme-femme, entre époux, entre parents et enfants, donc toutes nos relations sur le plan social, sur le plan ecclésial. Unité et altérité, une seule nature humaine, deux sexes complémentaires. Lundi le 13, pas après-demain, mais lundi en 8, je vais essayer d'aborder cette question, abordant finalement une question encore plus difficile, c'est-à-dire l'amour homosexuel, aussi bien que hétérosexuel, et ses conséquences dans la vie personnelle, dans la vie de l'Église. Pour aujourd'hui, j'aimerais tout simplement souligner ceci, que si nous sommes créés dans l'unité et l'altérité, si ces deux adjectifs, si vous voulez, unifiés et néanmoins différenciés, caractérisent notre vie au niveau le plus profond, c'est encore une fois un reflet de l'unité et de l'altérité qui caractérise la vie de la Sainte Trinité. Autrement dit, Dieu est l'archétype de notre existence humaine. Si nous sommes des personnes, c'est parce que, et pas seulement des individus, n'est-ce pas? Quelle est la différence entre un individu et une personne? Ce qui est individuel dans notre vie, c'est ce qui nous sépare les uns des autres. La couleur des yeux, le niveau de l'intelligence, notre arrière-fond culturel, etc. Voilà l'individu. Mais nous sommes personne dans la mesure où nous sommes unis, unifiés, en communion les uns avec les autres. Et voilà la raison pour laquelle nos théologiens d'aujourd'hui ont tendance à parler de l'homme, de la personne humaine, comme un être en communion. Un être en communion, encore une fois, communion avec Dieu, communion avec autrui, mais d'un certain sens aussi, communion avec nous-mêmes, n'est-ce pas? Or, tout cela devrait être un reflet de la vie divine. Il en est vrai en ce qui concerne le caractère personnel de notre existence. Nous sommes des personnes à l'image des trois personnes de la Sainte Trinité. Mais de même, nous sommes dans une complémentarité d'union et d'altérité aussi à l'instar de la Sainte Trinité. Trois hypostases, trois personnes distinctes. Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit Saint. Trois personnes différentes, mais unies, profondément unies par une seule essence divine, une seule nature divine, mais ça inclut aussi une volonté et un amour unique. Or, encore une fois, si nous sommes créés à l'image de Dieu, si nous sommes caractérisés par la vie personnelle de l'être humain et aussi par l'unité et l'altérité sur le plan sexuel, ceci est le reflet de cette unité, cette complémentarité, cette altérité qui existe au sein de la Sainte Trinité, qui ne veut pas du tout dire, bien sûr, qu'il y a de la sexualité dans la Sainte Trinité. La vie de Dieu dépasse entièrement tout ce qui est humain. Ce que je vous dis, c'est tout simplement à comprendre dans un sens analogue. Néanmoins, cette complémentarité homme-femme dans notre vie ne peut se comprendre réellement que dans cette optique de la diversité et l'unité qui caractérise la vie interne de la Sainte Trinité. Une autre chose à souligner d'emblée, ce qui est affirmé sans embâche dans ce premier chapitre de la Genèse, c'est que la sexualité est bonne. Elle est bonne. Souvent, on a interprété la pensée de quelques pères de l'Église, par exemple Saint Grégoire de Nice ou Saint Maxime le Confesseur, comme si la sexualité était tout simplement le résultat de la chute. Que l'homme est, si vous voulez, androgène à la création, et ce n'est que la chute, le péché qui est entré dans la vie humaine, qui a créé cette division radicale entre le féminin et le masculin. C'est pas ça ce que disent les saints-pères. C'est pas ça ce que disent les saints-pères. Grégoire de Nice, Maxime le Confesseur, l'ensemble de nos saints-pères affirment le fait que Dieu a créé l'homme sexuellement différencié dès le début, avant la chute, avant la révolte contre Dieu et l'expulsion du jardin. Donc, notre vie terrestre éloignée de Dieu est dans un état presque continu de révolte, d'éloignement de la face de Dieu. La sexualité, donc, est bonne. Elle est une fonction de la volonté divine dès la création même et non pas une conséquence du péché. Mais qu'est-ce qu'il faut dire à propos du péché? Et surtout à propos du péché dans la mesure où il est lié à la sexualité. Ceci nous ramène à la question de la chute, n'est-ce pas? La chute qui est souvent dépeinte dans notre iconographie, surtout dans une iconographie occidentale, mais aussi chez nous, dans la tradition orthodoxe, comme les images que vous voyez donc. Ce sont des images de la femme qui tente le fruit à Adam, et on tire facilement la conséquence que la chute est la responsabilité d'Ève, donc de la femme. Et cette notion a continué à travers la vie de l'Église. Certains pères ont opéré, comment dirais-je, presque un jeu d'image qui est très possible en latin. Ève, Eva, Marie, Ave. C'est l'inverse. Ave, Eva. Eva, Ave. Et la notion est celle-ci. C'est Marie, Ave, n'est-ce pas, qui a renversé l'action d'Ève afin de ramener l'humanité tout entière à une nouvelle relation avec Dieu, relation qui était cassée par Ève, puisque c'est elle qui est à la base de la tentation qui a provoqué le péché. Ceci représente aussi une injustice flagrante, bien sûr, parce que Adam est aussi coupable que Ève dans toute cette histoire et toute cette tradition. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Donc, nous avons la chute, qui nous est présentée comme la source de toute déformation de notre relation avec Dieu. Et cette déformation se réalise aussi au niveau de la sexualité. On vit cela au jour le jour dans la vie quotidienne, n'est-ce pas? Quelle est la rupture qui a été introduite dans la sexualité, dans nos expériences quotidiennes? Hommes, femmes mariés, hommes, femmes célibataires, jeunes, âgés, peu importe. Nous savons tous qu'il y a dans ce monde dans lequel nous vivons, comme résultat, conséquence de la chute, plusieurs aspects de la vie qui sont destructeurs. Nous pensons par exemple à la domination de l'homme sur la femme, le paternalisme, patriarcalisme, n'est-ce pas? Mais aussi, et le livre de la Genèse le souligne, n'est-ce pas? À cause du péché, la femme enfante dans la douleur. À cause du péché, il existe ce que l'on appelle la guerre des sexes, guerre qui se manifeste toujours et partout, parfois de manière très cachée, parfois de manière tout à fait ouverte, mais n'importe quel couple connaît cette guerre de temps en temps. Dans la société, nous connaissons bien cette guerre, les femmes qui ne peuvent pas avancer sur l'échelle à l'entreprise ou qui est empêchée, bloquée par telle ou telle structure sociologique, n'est-ce pas, protégée par les hommes, tout simplement parce que, avec les données de l'histoire, l'homme est, entre guillemets, plus fort, plus puissant. Et puis, la chute est responsable aussi pour ce que l'on appelle les péchés de la chair, donc la fornication, l'adultère, la masturbation chronique, la pédophilie, toutes sortes d'abus sur le plan sexuel. Tout cela est attribuable à ce que nous appelons la chute, cette révolte intérieure contre le Dieu qui nous a créés afin que notre amour soit à l'instar de son amour, cet amour infini, sans limite, amour pur et parfait que Dieu verse dans nos cœurs par la présence de son Saint-Esprit. Les chrétiens ont-ils peur de la sexualité? Oui, parce que les chrétiens sont très sensibles à ce que nous appelons les passions. Et c'est les passions qui ont tendance à tout déformer. Les passions ne sont pas ce que les saints-pères appellent les passions, ne sont pas forcément négatives. Il y a des passions qui peuvent nous mener en une relation tout à fait bonne avec autrui. Avec passion, on se donne à l'autre, on se sacrifie aux besoins des pauvres, etc. Mais nous savons bien qu'il y a des déformations aussi au niveau des passions qui créent sur le plan de la sexualité une aliénation, mais aussi de la peur. Afin de le comprendre, je crois qu'il vaut la peine de regarder un tout petit peu en arrière. Il y a une perspective historique que nous pouvons évoquer. Commençons par l'Ancien Testament. Il y a tout un mouvement dans l'histoire du peuple d'Israël. Dans les anciennes couches de la tradition, il y a donc des lois concernant l'adultère, n'est-ce pas? Mais ces lois, du moins dans les couches les plus anciennes de la tradition hébraïque, ces lois sont sociologiques plutôt que morales. C'est-à-dire, le but de la loi contre l'adultère, c'est de protéger la propriété du mari, n'est-ce pas? Mais, par la grâce de Dieu, la conscience en Israël se développe, s'approfondit. Et petit à petit, on commence à comprendre que la sexualité même comporte une dimension de bénédiction, mais aussi de danger. Et petit à petit, il y a une espèce de tabou qui se crée autour de la sexualité, comme autour donc de tout rite, de toute expression religieuse du peuple d'Israël. Il y a un tabou autour des sacrifices offerts à l'autel, n'est-ce pas? Mais un tabou également qui englobe, si vous voulez, tout ce qui est sexualité, ce qui est petit à petit poussé les défenseurs de la morale publique à considérer que la sexualité est peut-être la plus mauvaise passion qui soit. Aussi, avec le développement de la conscience personnelle, au temps des prophètes en Israël, par exemple, il y a un approfondissement concernant la sexualité, concernant l'amour, concernant les relations entre les personnes, jusqu'au point où le problème de l'adultère, par exemple, n'est plus limité à une question pratique, sociologique, concernant la propriété de l'homme. Il s'agit plutôt d'une vision une vision qui pénètre jusqu'au tréfonds des relations humaines, ce qui rend les Israélites beaucoup plus sensibles au danger de l'adultère, par exemple, et le risque de briser les relations entre les époux, entre parents et enfants, entre les amis. Il y a des amitiés très, très importantes dans la vie, dans notre existence, mais dans la mesure où une mauvaise sexualité s'infiltre là-dedans, il est très facile qu'une amitié se dégrade en une espèce d'idolâtrie sexuelle qui est purement égoïste. Or, passons maintenant au Nouveau Testament, au temps du Christ et de l'Église primitive, et un peu plus loin, au début du monachisme. Pour les moines, hommes et femmes, les moines qui se séparent du monde, il y a l'exigence de la chasteté. Pourquoi? Parce que la chasteté garde une certaine pureté du cœur. La chasteté représente aussi le fruit d'une lutte implacable menée jour et nuit par les pères du désert et par leurs successeurs. Et c'est un peu la vie, l'expérience, les réflexions de ces pères du désert et de leurs contemporains et leurs successeurs qui créent pour chacun de nous une image de la sexualité qui est une image de quelque chose de foncièrement dangereux. Dangereux. Ça ne veut pas dire négatif, tout simplement dangereux. J'aimerais vous proposer deux petits textes qui illustrent bien ce que je veux dire. Vous les connaissez peut-être si vous avez lu les apothègmes des pères du désert, mais écoutez. Un frère voyageait avec sa mère, ceci se situe donc quatrième siècle, n'est-ce pas? Un frère voyageait avec sa mère qui était bien âgée. Ils arrivèrent devant une rivière que la vieille femme ne pouvait pas traverser. Son fils prit son manteau, s'en enveloppa les mains pour ne pas toucher le corps de sa mère et traversa la rivière en la portant. Sa mère lui dit alors, « Mon enfant, pourquoi as-tu enveloppé tes mains ?»« Parce que, dit-il, parce que le corps d'une femme, c'est du feu. Et en le touchant, il me serait venu le souvenir d'autres femmes. » Fin d'histoire. Une deuxième. Encore un peu plus brutale presque, mais qui montre bien la sensibilité monastique par rapport à la sexualité. À Cété, lieu traditionnel de la vie monastique et de l'ascétisme monastique, À Sété se trouvait un frère qui était un lutteur éprouvé. L'ennemi, le diable, l'ennemi lui rappelait le souvenir d'une jolie femme et le tourmentait beaucoup. Or, par un effet de la Providence, un autre frère descendit d'Égypte à Sété et au cours de la conversation lui apprit que la femme d'un tel était morte. C'était justement celle qui le troublait. À cette nouvelle, ce moine prit son manteau et partit de nuit à l'endroit où il la savait enterrée. Il creusa la tombe et essuya le liquide qui coulait du cadavre avec son manteau. Puis il le rapporta dans sa cellule. L'odeur était intolérable. Mais il gardait cette infection devant lui et combattait ses pensées en disant, « Voici ce que tu convoitais, eh bien tu l'as, rassasie-toi. » Et il s'imposa le tourment de cette puanteur jusqu'à ce que le combat se fût apaisé en lui. On peut considérer ce genre de récit comme étant tout simplement bizarre. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est une leçon. Et ces apophthegmes représentent pour nous tous des leçons très importantes qui s'appliquent à la vie quotidienne, je dirais, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, la vie de chacun, au moins de temps en temps. Alors, cette image, pour continuer dans le développement historique et pour terminer avec ceci, cette image du danger représenté par la sexualité, ce qui a créé la peur fondée sur la puissance des passions qui entourent la sexualité, ceci était en grande mesure responsable pour la décision de l'Église de faire appel aux évêques, d'élever les évêques qui étaient eux-mêmes célibataires, et ceci autour du 5e et du 6e siècle. Nous savons, d'après les épîtres à Timothée, les épîtres de saint Paul, dites l'épître pastorale, n'est-ce pas, que les premiers évêques étaient mariés. Et cela a duré longtemps. Puis, avec des relations avec la cèse monastique, et aussi, en partie au moins, à cause de la passion de la sexualité et le besoin de lutter constamment contre ces passions, on a décidé que ce serait approprié d'exiger que les évêques soient célibataires. Et ceci a été suivi dans l'Occident, non pas chez les orthodoxes, mais chez les catholiques romains, autour du XIe siècle, par le célibat obligatoire chez les prêtres. Il y a une conséquence qui me paraît un peu triste, dommage, dans le catholicisme. Ce qui a été renversé d'une manière importante par les réflexions lors de Vatican II, c'est qu'il y avait une sorte d'hiérarchie de vocation qui a été créée. Le célibat était considéré donc comme une vocation supérieure, surtout chez le clergé. Tandis que chez les orthodoxes, grâce à Dieu, il y avait toujours l'optique, pas toujours respectée, mais l'optique existait, que les deux vocations, mariage et célibat, étaient pareilles. Les deux vocations étaient égales en valeur, en potentiel spirituel. Or, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui? Vous savez bien que nous vivons dans un monde marqué d'une certaine ambiance d'hédonisme et d'utilitarisme. Qu'est-ce que ça signifie? Pensons d'abord à la commercialisation, n'est-ce pas? Et ce que la commercialisation de toutes choses dans nos sociétés occidentales on fait pour banaliser la sexualité. Il y a un aphorisme américain que nous voyons collés sur le pare-choc de nos voitures très souvent, « sex sells ». Sex sells. Autrement dit, si tu veux vendre quelque chose et réussir dans tes activités commerciales, il faut introduire des images sexuelles d'une manière ou d'une autre. Une jolie femme sur le capot d'une voiture ou toute autre image que vous pouvez inventer afin que sex puisse sell. Nous vivons aussi dans un monde où, qui est marqué, profondément marqué, n'est-ce pas, par une priorité accordée aux droits sur les responsabilités. Le moteur de nos actions aujourd'hui, dans la grande société, c'est donc de chercher la satisfaction de tous nos désirs. Ce qui nous donne un autre aphorisme que l'on trouve aussi collé au pare-choc de certaines voitures aux États-Unis. If it feels good, do it. If it feels good, do it. Presque intraduisable, intraduisible. Mais la notion, c'est si cela te plaît, alors fais-le, n'est-ce pas? Quelles que soient les conséquences. Quelles que soient les conséquences, et cela surtout sur le plan de la sexualité. Or, aujourd'hui, tout le monde sait que tout ce qui est tabou autour de la sexualité, ce tabou que j'ai évoqué tout à l'heure, est plus ou moins tombé depuis les années 60 déjà. La rapidité de cette transformation, pour ma génération par exemple, a aussi tendance à faire peur. D'où vient la peur des chrétiens vis-à-vis de la sexualité? Pour nous, les parents, c'est de voir nos enfants engagés dans un comportement sexuel qui, pour beaucoup d'entre nous, est incompréhensible. On parle souvent aujourd'hui du sexe oral. On sait bien que les jeunes couples font ménage, sont bénéfices du mariage, et cela c'est très très répandu dans toutes nos sociétés occidentales aujourd'hui. Pourquoi pas? Parce qu'on n'achète pas une voiture sans le mettre en marche, sans voir si ça va bien marcher, n'est-ce pas? Donc il en est de même en ce qui concerne les relations humaines. Et puis il y a aussi ce que l'on appelle aujourd'hui je pense très malheureusement, le mariage homosexuel. Une grande partie de tout ce remuement et la problématique qui en est la conséquence, tout ceci est dû en grande partie à cause, et il faut le dire, à cause de la contraception. Le perfectionnement des moyens de contraception. Dans l'orthodoxie, la plupart des spécialistes en théologie morale acceptent une certaine forme ou des certaines formes de contraception dans certains cas bien précis. Je ne peux pas y entrer maintenant. Si vous voulez, on peut y revenir par la suite. Mais la contraception a eu aussi la conséquence de créer une expression sexuelle sans conséquence. Sans conséquence. La contraception, curieusement, a provoqué beaucoup plus d'activités sexuelles en dehors du mariage, dont les conséquences inévitables sont davantage de grossesses non voulues, n'est-ce pas? Ça aurait dû les empêcher? Statistiquement parlant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, loin de ça. Et le résultat, ironique et tragique, c'est qu'il y a aujourd'hui un taux d'avortement extrêmement élevé. Et où ce taux d'avortement se trouve-t-il le plus élevé? Dans nos pays de tradition orthodoxe. La Russie, la Roumanie et aujourd'hui, par rapport à la population, le pays du monde avec le plus d'avortements, c'est la Grèce. C'est la Grèce. la femme du père Răzvan Ionescu, Saint-Sulpice, a présenté à l'Institut Saint-Serge il y a un an ou deux une thèse de maîtrise sur la contraception. C'est un merveille, c'est excellent. Je dis tout simplement à part, si ce problème, cette question vous intéresse, peut-être aussi, surtout pour les médecins qui sont parmi nous, je ne peux que vous proposer, encourager à faire la lecture de ce texte. Il est disponible chez elle, Andrea Ionescu, ou bien à la bibliothèque de Saint-Serge. Vous voyez, nous vivons aujourd'hui dans un contexte de contradiction totale. D'une part, la contraception qui devrait rendre plus facile et plus égale réellement des relations sexuelles entre hommes et femmes. Mais simultanément, nous apprenons, nous nous rendons de plus en plus sensibles grâce aux recherches médicales aujourd'hui, du fait que l'embryon qui est créé par la sexualité, par cette œuvre de procréation à laquelle Dieu nous appelle dans un contexte approprié, cet embryon est un être humain à part entière, et cela, comme j'ai essayé de le souligner hier soir, dès la conception. La conception et l'égalisation de l'avortement rendent la sexualité plus juste dans le sens que la femme est maintenant presque aussi libre que l'homme à s'y engager sans peur de la grossesse. Et en même temps, nous sommes bien plus sensibles qu'avant aux conséquences de la sexualité et surtout en dehors du mariage. Aux États-Unis, mais ici en Europe aussi, on commence à étudier, par exemple, des conséquences de l'avortement. Il y a un syndrome de dépression associé à l'avortement. On parle du syndrome des mères avortées, une sorte de dépression dans laquelle beaucoup tombent suite à un avortement, surtout un avortement volontaire, n'est-ce pas, qui n'a pas de vraie justification médicale thérapeutique. Mais on devrait parler aussi des pères avortés, parce que très souvent, une femme optera pour un avortement sans que le père soit consulté. Et nous connaissons des cas de déprime chez certains pères parce que la mère de son enfant a pris précisément cette décision. Les chrétiens ont-ils peur de la sexualité? Oui. Ou bien faut-il dire que les chrétiens ont peur de ce que nous avons fait de la sexualité? Il y a, me semble-t-il, un besoin urgent dans le monde et surtout dans nos églises aujourd'hui à ce propos. Et ce besoin, c'est de recouvrer le sens originel de la sexualité et de nous éduquer, non pas dans un sens moralisant, mais pour retrouver la vraie valeur, la vraie beauté des rapports sexuels. Tous nous savons, je pense, que l'Église, depuis le tout début, a insisté à ce que tout ce qui est sexualité dans le sens plein de ce mot, c'est-à-dire sexualité génitale, si on veut utiliser ce genre de langage, devrait être, aux yeux de l'Église, limité au mariage. Et on a tendance à décrire le mariage par quelques adjectifs. À mes yeux, les plus importants sont les suivants. Le mariage devrait être monogame, hétérosexuel, béni et conjugal. Monogame parce que, comme la Bible elle-même nous le dit, Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu entre lui-même, n'est-ce pas, dans une relation intime avec Israël. Israël est l'épouse du Seigneur, du Yahvé, du Dieu d'Israël. Pensez donc aux cantiques des cantiques. Ce sont des jeunes gens qui s'aiment. Et il y a dans cet amour une unicité qui est à la base même de leur relation. Monogame donc, mais hétérosexuel. C'est un adjectif qui n'entrait pas du tout dans notre vision quand moi j'étais à l'école. On n'avait pas besoin de dire que le mariage devrait être hétérosexuel. Ça allait de soi, n'est-ce pas? Mais très rapidement, il y a un tournement qui s'est opéré. Et puis maintenant, en tant que... Dans une perspective, il faut le dire de cette façon-ci, me semble-t-il, dans une perspective chrétienne, le mariage ne peut qu'être hétérosexuel. Quelles que soient nos réactions par rapport à l'homosexualité, que l'on accepte ou non, le Pax et toute autre chose que l'on peut évoquer, il faut revenir quand même à la notion de base, la notion de mariage. Et à mes yeux, de toute façon, même si la société veut bien accepter des couples homosexuels, ce que nous appelons en anglais « same-sex unions », donc des unions entre des personnes du même genre, même sexe, même si on accepte ces couples homosexuels, il faut garder le langage du mariage dans son propre contexte. Parce que le langage est important. Encore, comme j'ai essayé de le dire hier soir, les mots, n'est-ce pas, comportent des significations beaucoup plus larges que ce qui est sur une page noire sur blanc. Un mot évoque toute une gamme de réponses en nous, comme un poème, comme l'Évangile. On est toujours appelé à dépasser la limite lexique, le sens fondamental de tel ou tel mot, afin d'entrer dans une plénitude. Et ceci est surtout vrai de nos jours quand il s'agit du mot « mariage ». Et puis, il faut aussi que le mariage soit béni, béni. C'est cette bénédiction-là qui rend du mariage une réalité spirituelle. Est-ce qu'il y a un vrai mariage quand cela s'achève à la mairie? On peut poser la question quand même, n'est-ce pas? Sur le plan légal, sociologique, bien sûr, le couple est bel et bien marié. Mais aux yeux de Dieu, l'Église nous appelle à une certaine relation scellée par un rite qui lui-même est symbolique, c'est-à-dire qui nous fait participer à la vie même de Dieu. Et c'est par cette bénédiction que Dieu entre dans la vie du couple, participe à notre vie, à notre existence, et permet que le couple, désormais, par cette bénédiction, puisse participer pleinement à la vie divine. Et en dernier lieu, le quatrième adjectif, le mariage est conjugal. Ça devrait aller de soi, mais dire que c'est conjugal, c'est dire qu'il y a une union qui se renouvelle au jour le jour. Il y a toujours des ruptures au niveau du mariage, toujours des ruptures au niveau de n'importe quelle relation humaine qui est une relation en profondeur. Mais il faut que cela soit renouvelé. Et voilà le sens, me semble-t-il, de cette notion d'union conjugale qui marque ceux qui entrent dans ce domaine de la vie du couple. Pourquoi le mariage? Il y a tout un débat là-dessus. Pour répondre très rapidement à la question, parce que ça touche de façon directe toute cette question concernant la sexualité et la peur devant la sexualité. Si la sexualité est limitée dans la perspective chrétienne à un mariage béni dans l'Église par Dieu, c'est parce que le but premier de la sexualité, c'est néanmoins la procréation. la procréation. Dieu crée l'homme et femme, et puis il fait un appel. Il les invite à se multiplier et remplir la terre. Bon, on a un peu trop obéi ces jours-ci. Nous avons parfois des problèmes de surpopulation. Mais ce n'est pas ça qui pose un problème vis-à-vis de cet appel de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes toujours appelés à mener une vie de couple avec la perspective de la procréation. Qu'est-ce que c'est que la procréation? Pas la reproduction, mais la procréation. Parce que cette invitation que Dieu nous lance, c'est une invitation de participer avec lui à son œuvre créatrice, son œuvre continue de création. Et voilà ce que fait maman et papa quand ils mettent au monde un enfant qui est lui aussi porteur de l'image divine. Mais, depuis toujours, l'Église a reconnu que si un couple, par exemple, à cause un problème au niveau des trompes de Fallope, spermatozoïdes de trop faible motilité ou toute autre raison, un couple ne peut pas concevoir un enfant, le mariage n'est nullement diminué par ce fait-là. Sur le plan affectif, oui, s'ils veulent avoir d'enfants. Mais nous savons aussi qu'un couple qui adopte un enfant, par exemple, est un couple, une famille, parents-enfants, à part entière, sans la moindre diminution de valeur, surtout pas sur le plan spirituel. Tout est donné, n'est-ce pas? Alors, cela veut dire qu'il y a un autre aspect du mariage qui est à respecter, et c'est ce que l'on appelle normalement la valeur unitive. La sexualité existe aussi, bien sûr, pour approfondir notre amour sur le plan physique, mais à cause de l'intensité, à cause de la plénitude, mais à cause aussi de la beauté de la sexualité, vécue, proprement vécue, il y a donc une croissance, une intimité qui se crée, un approfondissement qui se crée au fur et à mesure, de sorte que le couple devient de plus en plus unifié, encore une fois, à l'image de l'union qui existe au sein de la Sainte Trinité. Même dans nos rapports sexuels, il y a quelque chose qui reflète l'amour divin. Il ne faut pas l'oublier. Mais, dans la perspective orthodoxe, je crois qu'il faut dépasser cette polarité entre procréation d'une part, valeur unitive d'autre part, et dire que le vrai but du mariage, c'est en fin de compte le salut mutuel des époux. Si Dieu nous appelle à vivre ensemble, c'est de procréer dans la mesure du possible. Si Dieu nous appelle à mener une vie de mariés, de couple, c'est aussi pour nous unifier dans la mesure du possible. Mais au-delà de chacun de ces pôles, si vous voulez, il y a cet appel de vivre l'un avec l'autre, d'œuvrer l'un avec l'autre, se sacrifier l'un pour l'autre, afin que l'autre soit sauvé. Saint Paul pose la question à la femme qui pense que peut-être devrait-elle se divorcer parce que son mari n'est pas devenu chrétien comme elle. Et Saint Paul dit, dans la mesure où le mari non-croyant veut garder l'union de mariage, toi aussi, toi, femme chrétienne, respecte cela, car, femme, comment sais-tu si tu sauveras ton mari? Mari, comment sais-tu si tu sauveras ta femme, n'est-ce pas? On est donné l'un à l'autre pour cela. On peut dire que toute relation personnelle comporte une dimension sexuelle. Mais cela, il faut bien comprendre. Personne n'a défini, me semble-t-il, le mot sexualité ou sexuel de façon adéquate. On ne sait jamais comment la sexualité devrait s'exprimer dans telle ou telle relation. Nous savons que le mot aujourd'hui évoque presque toujours une image de relation sexuelle génitale. Mais ce n'est pas forcément la définition la plus complète de la sexualité. Si on comprend qu'à un certain niveau, la vie sexuelle englobe tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes. Ça ne veut pas dire que dans le sens habituel, le mot sexuel s'applique à des relations en dehors, ou devrait s'appliquer à des relations en dehors du mariage. Non. Ce que je veux dire, c'est tout simplement le fait que n'importe quelle amitié entre homme et homme, entre homme et femme, entre femme et femme, toute relation comporte une dimension d'affectivité, dimension de respect, dimension de communion, qui entre aussi dans le domaine de la sexualité, mais à un niveau beaucoup plus profond, bien sûr, quand il s'agit de ce qu'on appelle la sexualité génitale. J'évoque cette question parce que je crois qu'il faut se rappeler que dans l'histoire, il y a beaucoup de relations aussi entre hommes et femmes qui comportent des aspects qui touchent à certaines dimensions de la sexualité, mais qui ne sont pas proprement dit sexuelles. Je pense par exemple aux relations qui existent ce que l'on appelle des amitiés spirituelles, où il n'y a aucune expression sexuelle, mais où il y a une amitié profonde, profonde, qui touche le tréfonds des personnes qui entrent dans ces relations. On peut penser, par exemple, à Jésus, à Marie Magdalene, à Saint Jean Chrysostome et à Olympia, à Saint François d'Assise et Claire, François de Sales et Jean de Chantal, Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse, et puis plus récemment, au Père Lev Gillet et Élisabeth Persigel. Le mot sexuel ou sexualité n'entre pas du tout dans cette discussion telle que nous employons ces mots aujourd'hui. C'est évident. Il s'agit d'une amitié pure et profonde, mais qui est basé non seulement sur une sorte de lien superficiel, mais qui représente donc un engagement, une communion, qui représente pour chacun une véritable bénédiction. Il faut dire, en affirmant cela quand même, que parler du sexuel signifie aujourd'hui tout ce qui mène à l'union génitale, dont le but propre est néanmoins la procréation, l'union entre époux et puis le salut réciproque. Le salut réciproque. Pourquoi évoquer donc ces amitiés spirituelles sans expression sexuelle? Tout simplement parce que ces amitiés que j'ai évoquées, même celles qui existaient entre Jésus et Marie-Madeleine, qui n'étaient pas, malgré tout ce que le Da Vinci Code ou tout autre roman d'aujourd'hui aimerait dire, cette notion tout à fait gnostique qui prétend qu'il y avait des relations sexuelles entre Jésus et Marie-Madeleine, c'est de la pure fantaisie sur le plan historique. Mais pourquoi évoquer ces images? Parce que ces amitiés historiques des saints dont j'ai évoqué les noms, y compris, je dirais, le Père Lev et Élisabeth Persigel, si vous avez connu ces personnes remarquables, ces amitiés spirituelles nous montrent une chose très importante. C'est le fait qu'il faut faire transformer la passion de la concupiscence en un divine éros, un divine éros, encore une fois, à l'instar de l'amitié qui lie les trois personnes, qui unit les trois personnes de la Sainte Trinité. Alors, pour terminer, permettez-moi d'évoquer rapidement quelques brefs passages bibliques, tout simplement pour situer tout cela dans un contexte d'amour réellement évangélique. Il y a dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Saint Paul, mais peut-être surtout dans cette merveilleuse petite épître de Saint Jean, la première épître, surtout au quatrième chapitre, il y a des images de l'amour, d'un amour véritable qui n'est rien d'autre qu'un amour sacrificiel. Encore une fois, reflétant l'amour sacrificiel que Dieu nous offre dans la personne de son Fils crucifié. Romains 5, 5, Paul dit ceci. L'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné, donné au baptême. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs et de façon continue par l'Esprit qui nous a été donné. Et puis finalement, 1 Jean 4, 16, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Enfin, le vrai christianisme n'a donc aucune peur devant la sexualité. Celle-ci est un don béni de Dieu pour la procréation, pour la communion entre époux et pour le salut réciproque. Et ce que Dieu nous appelle au milieu d'une société marquée par une confusion quasiment totale en ce qui concerne la sexualité et l'amour, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est tout simplement d'entrer dans une recherche d'un amour vrai et pur. Et puis, dans le contexte de mariage, il nous demande aussi de demander que notre joie sexuelle, l'éros de la chair, ne soit pas supprimée, pas du tout, mais que cet éros physique, éros de la chair, soit constamment transformé, transfiguré en un éros divin, qui signifie donc la soif de Dieu, la soif d'une communion éternelle en lui, dans la plénitude de son royaume. Voilà quelques petites réflexions sur cette question, encore une fois si difficile, parfois même pénible d'aborder. Je m'arrête là, mais s'il y a des questions ou des observations, des objections, des arguments, tout ce que vous voulez. Je crois qu'on peut passer encore quelques moments, entrer dans au moins un petit débat, si vous voulez bien. Vous voulez... Merci. Vous voulez peut-être...
S'il y a quelqu'un qui veut poser des questions, avec un petit biais ou oralement?
Non, oralement, je crois que c'est beaucoup plus facile. Mais si vous voulez bien vous mettre debout pour que tout le monde puisse bien entendre... debout, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse entendre. Je ne comprends pas exactement ce que vous voulez dire, excusez-moi. La question de la sexualité se pose beaucoup plus vite, vous dites, que la question du mariage. Oh, mais ça, c'est évident, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La vie sexuelle, encore une fois, créée bonne, n'est-ce pas? Il ne faut pas l'oublier. La sexualité, c'est une fonction de l'œuvre créatrice de Dieu dès l'origine. Dès l'origine. Et l'homme, l'être humain, dès la naissance, presque, le moment où un bébé commence à se comprendre, n'est-ce pas, à se rendre compte que lui ou elle est une réalité indépendante, personnelle, qui a une certaine identité, cet enfant commence à s'explorer. Parfois, les parents sont horrifiés parce qu'ils disent « Ah, l'enfant est en train de faire de masturbation ou quelque chose comme ça. » Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Oui. Un couple qui?
De se former.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la sexualité donc marque l'ensemble de notre vie, n'est-ce pas? Dès le début, et il est tout à fait normal que dans nos relations de jeunes et puis d'adolescents, de jeunes qui envisagent dans l'avenir une vie de couple, que la sexualité joue un rôle capital. Mais c'est précisément là où la lutte est engagée pour ceux qui veulent mener cette lutte. Tout le monde y est susceptible, avec quelques petites exceptions, je suppose. Mais en gros, c'est vrai, la sexualité, c'est une question et même un problème qui peut se poser dès le début de n'importe quelle relation entre un jeune homme et une jeune femme, par exemple. Alors, même avant de penser au mariage, la tentation sur le plan sexuel, qui est tellement importante, n'est-ce pas, et souvent tellement difficile à écarter, à supprimer, faire diminuer, souvent ça l'emporte, n'est-ce pas. Et c'est ça ce qui, aujourd'hui, surtout, est à la base de ce phénomène ménage en dehors du mariage, n'est-ce pas? Mais comme j'ai dit tout à l'heure à quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut attendre? Regarder la télévision n'importe quelle soirée de la semaine, n'est-ce pas? Les jeunes gens sortent et pour la première fois vont au cinéma et avant que la soirée ne s'achève, ils se trouvent ensemble au lit. C'est normal, n'est-ce pas? Et si nos enfants sont conditionnés par cela, et c'est cela donc, c'est un conditionnement psychologique, bien sûr, la sexualité ne se trouvera plus sa place propre, avec tout ce que ça implique, comme tout simplement un simple contrôle de soi. Parlons même pas d'ascèse dans le sens rigoureux de ce mot. C'est une simple question de respect de l'autre, n'est-ce pas? Mais si on est conditionné de penser que la seule façon vraie d'exprimer une certaine affection avec une autre personne, c'est d'avoir des rapports sexuels avec elle, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas. Mais c'est une déformation tellement répandue de nos jours que, bien sûr, ça l'emporte. Normalement, au début, de toute façon, sur toute question concernant de « est-ce qu'on va se marier un jour ?» Peut-être le côté positif, s'il y en a un dans tout cela, c'est le fait que le mariage ne signifie plus tout simplement la permission d'avoir du sexe, n'est-ce pas? C'est un peu notre expérience en Alaska. Mon épouse et moi, nous avons passé 3 ans. J'ai enseigné dans notre petit séminaire en Alaska. J'ai énormément aimé les Esquimaux, les indigènes, les autochtones, des gens merveilleux, dont la plupart dans le sud de l'Alaska sont des orthodoxes. Mais à cause de l'influence des Blancs, il y a énormément d'alcoolisme. Et pour beaucoup, Pâques signifie « je peux recommencer à boire », n'est-ce pas? Et ça se limite plus ou moins à cela. Le mariage, dans le temps, était un peu comme ça. J'attends. Enfin, n'est-ce pas? Alors, ça, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans non plus. Nous sommes capables, comme êtres humains, de déformer n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est ça le péché universel. Mais c'est là aussi où Dieu nous invite, n'est-ce pas, à retrouver une vision évangélique, traditionnelle, sur l'amour. L'amour, encore une fois, qui a comme archétype l'amour de la Sainte Trinité. Oui.
Parce que je pense que c'est une des causes de la catastrophe de la sexualité avec la contraception.
Oui. Ça me fait penser, une fois quand j'étais en Roumanie, je crois que c'était à Craiova, oui, on m'a demandé de parler à ce sujet. Et je suis entré dans l'enceinte de l'église, à droite il y avait un panneau avec une immense affiche. Et tout ce que j'ai pu lire en caractère gros comme ça, c'est « Pornographia, John Breck ». C'était un peu bouleversant, j'avoue. Mais lorsque j'en ai parlé, j'ai essayé de décrire la pornographie comme une iconographie diabolique, démoniaque. Parce que le but de la vraie iconographie, c'est de nous représenter tel que nous sommes appelés à devenir, n'est-ce pas, l'homme transfiguré, comblé de lumière. La pornographie, c'est précisément l'inverse, qui s'appuie aussi sur des images, sur ce qui nous touche à un niveau très profond. Néanmoins, c'est l'œuvre du diable. Je me demande si parfois ce ne serait pas utile pour certaines personnes de regarder s'ils ont un problème avec la pornographie. À l'Internet aujourd'hui, énormément de nos jeunes, n'est-ce pas, immense quantité de nos jeunes deviennent carrément dépendantes de l'iconographie, cette iconographie diabolique. Je ne sais pas, j'ai entendu dire une fois d'une personne qui avait cette expérience que sa façon d'en sortir était de regarder des images qui étaient tellement grossières que ça lui rendait malade. Ce n'était plus attirant, n'est-ce pas? C'était repoussant à l'extrême. Un peu comme ce monsieur, homme, mais qui devient moine et qui est néanmoins tracassé par le fait que la sexualité demeure quelque chose de très vivant, surtout par rapport à cette femme qui représente pour lui l'image de la beauté, de la perfection, etc. Mais chez lui aussi, il y avait une impulsion sexuelle contre laquelle il devait lutter jour et nuit. Donc cette femme meurt et la solution pour lui, c'est de se rendre au tombeau, n'est-ce pas ? De tremper son manteau dans le liquide qui sortait du cadavre et de l'envelopper dans tout cela. La puanteur, dit les pères du désert, était terrible, insupportable. Mais cela l'a guéri. C'est un problème très grave, beaucoup trop important pour que nous puissions l'aborder de façon sérieuse ce soir. Mais j'espère que pour vous qui s'intéressez à cela, ce sera possible peut-être dans un autre contexte de revenir à cela, n'est-ce pas? Parce que j'avoue qu'il s'agit du cinéma ou des images que nous voyons dans la rue, n'est-ce pas, pour tel ou tel vêtement féminin. Pensant surtout aux films, chez nous, il y avait donc des grades pour que les parents puissent, en principe, décider si oui ou non ils allaient permettre à leurs enfants de voir tel ou tel film. Donc, de mes jours, quand j'étais petit, il y avait pour le porno pur une grosse X, n'est-ce pas? Et puis il y avait le PG, Parental Guidance, donc dirigé par les parents, PG-13, seulement les enfants au-dessus de l'âge de 13 ans pouvaient y entrer sans un adulte, ce genre de choses, n'est-ce pas? Or, aujourd'hui, ce qui était à mes jours un grand X passe peut-être pour PG-13. Donc, les choses ont changé. Les choses ont changé. Et pas forcément pour le bien. Mais voilà le défi posé à l'Église aujourd'hui. Et ça veut dire vous et moi, nous tous.
Excusez-moi. Est-ce que vous pensez qu'à nos jours, dans nos familles, il y a ce problème de sexualité? On la traite comme un tabou entre les parents et les enfants. Comment vous conseillez nos parents de conseiller nos enfants?
Oui. C'est un cours sur 2 semestres, en tout cas. Mais dans l'ensemble, ce que je dirais, c'est qu'il est très important de se rendre compte que les petits-enfants ont beaucoup de sens commun, ont beaucoup de sagesse. On est né avec une certaine sagesse, je pense bien, une certaine sensibilité, une certaine capacité de se faire éduquer. Et c'est notre responsabilité en tant que parents d'éduquer nos enfants aussi dans le domaine de la sexualité. La meilleure façon, ce n'est pas de le faire uniquement par les mots, parler des birds and bees comme chez nous. On cherche toutes sortes d'astuces, n'est-ce pas, pour ne pas parler de la sexualité. Il faut en parler. Il faut en parler avec des jeunes enfants même. Parce que les jeunes enfants vivent dans une société hypersexualisée. Or, pour les parents, je crois que ça veut dire que nous sommes obligés d'aborder la question de la sexualité de façon très, très simple, mais très honnête. Très honnête. Je me rappelle bien lorsque notre deuxième enfant se trouvait toujours dans le ventre de sa maman. Michel, la grossesse avait continué pendant à peu près 6 mois, je crois. Notre cadet bougeait dans le sein de sa mère et elle a permis à ce que Paul, notre aîné, 2 ans de plus, 2 ans, 2 ans et demi à l'époque, pose sa tête contre son ventre. Il a rigolé, mais il a compris quelque chose. Et puis, cette expérience-là, toute simple, était quand même un commencement de quelque chose. Et je crois que c'est un peu par des gestes comme ça, non seulement en disant, voilà, ça se fait de cette façon-là, voilà ce qui est permis, voilà ce qui est interdit, voilà, fait de même. Ça ne va pas très loin. Mais si un couple est réellement uni sur le plan sexuel, aussi bien que sur le plan de l'amour en général, les enfants ressentent quelque chose, ils vivent quelque chose, ils absorbent, intériorisent quelque chose en profondeur. Et je crois que c'est en marchant avec eux très doucement, ne casser rien, parce que des cassures au niveau de la sexualité chez les petits-enfants peut être désastreux. Un abus sexuel, par exemple, vécu, disons, par une petite fille à un très bas âge, peut avoir des séquelles qui durent jusqu'à la mort, et de graves séquelles, qu'elle soit mariée ou non. Donc, il faut être très attentif en ce qui concerne la sexualité, mais aussi très simple, très honnête. Et dans la mesure où nous avons besoin d'être guidés, cherchons cela auprès d'un père spirituel ou une mère spirituelle, auprès de l'Église, mais aussi et surtout dans la prière. Seigneur, voilà une possibilité et une question qui se pose. Comment pourrais-je répondre de la meilleure façon?
Thank you.